Vous êtes avec SBS French. Les grands titres de ce 16 juin, un troisième ministre du gouvernement du Victoria a présenté sa démission. Une école primaire dans le nord de Melbourne a fermé ses portes pour un nettoyage après qu'un étudiant ait été testé positif au coronavirus. Une décision historique aux États-Unis pour protéger les personnes LGBTI de la discrimination sur le lieu de travail. Un autre ministre du gouvernement du Victoria a démissionné suite à des allégations de branch stacking qui minent le parti travailliste, déclarant qu'elle voulait blanchir son nom dans le cadre d'une enquête. Marlène Kérouse est la dernière députée à s'être retirée des fonctions ministérielles après la démission de Robin Scott hier soir, les deux affirmant qu'ils ne veulent pas distraire le gouvernement. Lundi, le premier du Victoria, Daniel Andrews, a limogé Adam Somurek en tant que ministre qui a rejeté les accusations liées aux allégations de branch stacking diffusées dans le programme de 60 Minutes sur Channel 9. Daniel Andrews a déclaré que Mme Kérouse avait pris les mesures appropriées en raison de graves problèmes auxquels le parti était confronté.
They are being investigated by IBAC, by Victoria Police. I simply will not cut across that process. I have faith in that process and I'm committed to that process.
Pour expliquer ce que veut dire branch stacking, eh bien, il consiste à recruter des personnes dans une faction d'un parti politique pour influencer qui est présélectionné comme candidat pour les prochaines élections. Une faction pourrait essayer de recruter de nouveaux membres dans le parti, peut-être en offrant de payer leurs cotisations en échange de leur vote en faveur du candidat favori. Le branch stacking devient illégal dans le cas où de fausses informations ont été fournies à la Commission électorale australienne. Cela peut inclure des membres utilisant une fausse adresse ou falsifiant des signatures. Un homme a été arrêté pour avoir peint des graffitis critiquant l'accord entre le Victoria et la Chine qui favorise le commerce et les emplois publics. Le partenariat a été signé l'année dernière, donnant le Victoria et à la Chine la possibilité de travailler ensemble sur les opportunités d'investissement et d'infrastructures. Un homme de 40 ans aurait écrit, je cite, « One belt, one road to hell » devant le bureau du premier du Victoria, Daniel Andrews, à Melbourne ce mardi matin. L'homme est en garde à vue pour aider la police dans ses enquêtes. Un conseiller municipal du Parti des Verts du Queensland se demande pourquoi il était la seule personne arrêtée lors d'une manifestation le week-end dernier. Jonathan Shree a été accusé d'avoir enfreint les instructions d'un policier après avoir assisté à une manifestation concernant la réinstallation des demandeurs d'asile. Il affirme que la police essaye de mettre un terme aux manifestations pacifiques qui constituent une attaque contre les droits de l'homme et qu'il prévoit de contester la décision devant un tribunal. Le gouvernement du Queensland fait face à deux contestations judiciaires contre le droit constitutionnel de l'État de maintenir les frontières fermées dans le cadre des mesures de sécurité contre le coronavirus. La procédure judiciaire revient devant la Haute Cour alors que le gouvernement envisage de revoir sa décision de fermer les frontières plus tard ce mois-ci. Il est peu probable que les cas soient entendus avant la réouverture des frontières, mais l'homme d'affaires Clive Palmer et d'autres souhaitent que le Queensland limite les conséquences économiques causées par les fermetures des frontières. Une enquête a révélé que les titulaires de visas temporaires confrontés à la violence en Nouvelle-Galles du Sud ont du mal à accéder à des services de soutien, y compris des conseils juridiques. Les données du Domestic Violence New South Wales montre une augmentation de 45% de violences sexuelles, de violences domestiques ou de violences familiales parmi ce groupe vulnérable. En mai, les titulaires de visas temporaires n'ont pas pu accéder à un hébergement et aux cours d'anglais en raison de leur inéligibilité et d'un financement minimal. Écoutez la responsable par intérim de l'agence, Delia Donovan. Elle était sur SBS.
And due to the high risk of homelessness and poverty, often people on temporary visas struggle to make the decision to leave the violent partner, which of course can increase the risk of them being further harmed or even death.
Une école primaire dans le nord de Melbourne a fermé ses portes pour un nettoyage après qu'un étudiant ait été testé positif au coronavirus. L'école primaire de Strathmore a fermé ses portes quelques jours seulement après le retour des élèves plus âgés dans les classes la semaine dernière. Un propriétaire de pub à Melbourne prévient que la moitié de ses entreprises dans le Victoria pourraient fermer dans les 12 mois qui viennent si l'État ne modifie pas les mesures de distanciation sociale contre le coronavirus. Certains propriétaires de pub ont lancé une campagne pour sauver leur entreprise et demandent au gouvernement de l'État de modifier les règles pour rendre la distanciation physique raisonnable. Le groupe Save Our Pubs avertit qu'il va ignorer la politique d'une personne par 2 mètres carrés parce que le premier du Victoria, Daniel Andrews, ignore les difficultés auxquelles l'industrie est confrontée. La Nouvelle-Galles du Sud déclare n'avoir enregistré aucun cas de coronavirus impliquant une transmission communautaire, qualifiant le résultat de signe positif dans la lutte contre le COVID-19. La chef de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, exhorte les gens à se rendre sur les sites de dépistage pendant la période hivernale pour se faire tester du coronavirus.
We've had 3 cases overnight, but they were all 3 people in quarantine. And I want to thank everybody for coming forward and getting tested because the weekend still showed up to 8,000 people getting tested on the Sunday, which is what today's results reflect.
Le trésorier de la Nouvelle-Galles du Sud présentera une mise à jour économique ce mardi avec un taux de chômage qui devrait atteindre les 7%. Les rapports des médias suggèrent qu'il y aura une baisse des recettes publiques de 20 milliards de dollars sur une période de 5 ans. Le trésorier Dominique Perrottet qualifiant les chiffres de, je cite, « difficiles ». Le gouvernement de l'État prévoit également de dépenser des millions de dollars pour accélérer les chirurgies électives après des retards en raison de la pandémie de coronavirus. La famille d'un homme de 27 ans décédé à Atlanta, aux États-Unis, appelle à des changements dans la façon dont la police traite la communauté afro-américaine dans le pays. Un officier de police a abattu l'afro-américain Rayshard Brooks au cours du week-end et sa mort a été déclarée comme un homicide. Sa veuve, Tomika Miller, a demandé aux manifestants qui font campagne pour la justice de rester calmes.
His name will forever be remembered.
Nous n'oublierons jamais son nom. Aucune décision de justice ne pourra me faire accepter ce qui s'est passé. Rien ne me rendra jamais mon mari, mon meilleur ami. Rien ne m'aidera à expliquer ce qui s'est passé à ma fille. Je vais mettre beaucoup de temps à guérir. Cette famille va mettre beaucoup de temps à guérir. Je remercie tout le monde pour la mobilisation et je voudrais juste demander que les protestations continuent de façon pacifique, car nous voulons que son souvenir reste positif.
Le président américain Donald Trump a reconnu une décision de la Cour suprême garantissant la protection des travailleurs transgenres et gays. Le tribunal a confirmé la protection des travailleurs en vertu d'une loi fédérale qui interdit la discrimination sur le lieu de travail fondée sur le sexe, la race, la couleur, l'origine nationale et la religion. Donald Trump a commenté la décision que beaucoup décrivent comme un moment important pour l'égalité et un verdict historique pour la communauté LGBTI.
I've read the decision and some people were surprised, but they've ruled and we live with their decision. That's what it's all about. We live with the decision of the Supreme Court. Very powerful, a very powerful decision actually. But they have so ruled.
Et maintenant, l'analyse de Eric de Salve, le correspondant de RFI aux États-Unis.
La question posée au juge était simple. Est-ce qu'un employeur peut licencier un salarié parce qu'il est homosexuel? Non, répond la Cour suprême dans son arrêt. La loi l'interdit. Toute la controverse repose sur l'interprétation juridique du mot sexe dans le Civil Rights Act de 1964. Ce texte interdit de discriminer un employé en raison de sa couleur de peau, de sa religion et de son sexe, mais ne précise pas si sexe doit être entendu au sens de genre ou d'orientation sexuelle. Du coup, ce flou juridique permettait jusqu'ici à certains tribunaux tribunaux de juger que la loi interdisait uniquement les discriminations professionnelles hommes-femmes et pas celles contre les minorités sexuelles. Une position très conservatrice, également défendue par l'administration Trump, selon laquelle le Congrès n'avait aucunement l'intention de défendre les gays en votant cette loi en 1964. Finalement, la plus haute juridiction des États-Unis, très attendue sur les questions homosexuelles, en a décidé autrement. Deux juges conservateurs ont même voté avec les quatre progressistes, le président de la Cour suprême John Roberts, mais aussi Neil Gorsuch, pourtant choisi par Donald Trump en 2017. L'autre juge, nommé par le président Brett Kavanaugh, s'est en revanche opposé à cette décision qui protège désormais du licenciement des millions de salariés homosexuels aux États-Unis.
En Afrique, au Mali, une patrouille est tombée dans une embuscade. 24 soldats sont morts dans la région de Diabali. Précision de Marie-Pierre Olfan pour RFI.
C'est par un tweet que l'armée malienne a annoncé le premier bilan. 24 morts, 8 rescapés et 4 véhicules détruits. Tweet complété ce soir par un communiqué du ministère de la Défense qui ajoute que 3 soldats manquent toujours à l'appel. Les évaluations se poursuivent sur zone et ils sont recherchés activement, assurent les autorités maliennes. Pour l'heure, on a toujours peu de détails sur le déroulé des faits. On sait simplement que la patrouille est tombée dans une embuscade dans la localité de Boukiwéré et que les combats ont été violents, à en croire le communiqué du ministère de la Défense. Si manifestement une vingtaine de rescapés ont pu d'eux-mêmes regagner leur camp près de la frontière mauritanienne dans un premier temps, le bilan humain est lourd, tout comme le bilan matériel. Depuis cet après-midi, une vidéo circule avec plusieurs corps de militaires maliens tués dans un environnement qui semble correspondre à celui de l'attaque. On y voit notamment un assaillant présumé récupérer tout ce qu'il peut dans leur poche, mais ces images n'ont pas été authentifiées.
Le procès Lamine Diack, le procès de l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme et ses 5 co-prévenus, entre dans sa deuxième et dernière semaine. Bilan de la journée d'hier avec Laura Martel pour RFI.
Pour l'accusation, Papa Massata Diack s'est octroyé des millions d'euros qui auraient dû revenir à l'I2AF en prenant des commissions exorbitantes ou en imposant ses sociétés comme intermédiaire dans les négociations avec plusieurs sponsors. Il est poursuivi pour recel de l'abus de confiance dont était accusé Lamine Diack pour avoir placé son fils en position de faire ses détournements présumés. L'I2AF, partie civile, réclame aujourd'hui plus de 40 millions d'euros. Interrogé sur ses contrats et montages financiers, Lamine Diack multiplie les « je ne sais pas, je ne me souviens plus ». Avançant même « vous savez, je suis en train de devenir un vieux clou. Enfin, monsieur Diack, ça ne vous posait pas de problème que votre fils cumule les casquettes, qu'en même temps qu'il négocie pour l'I2AF avec un sponsor, il se fasse embaucher comme consultant par ce même sponsor, le presse la présidente. Dans ce cas-là, ça pose problème, finit-il par reconnaître. Agacé, il glisse à son avocat, c'est quand même dommage qu'il ne soit pas venu, évoquant son co-accusé de fils. C'est ensuite au procureur de mettre Lamine Diack en difficulté. En 4 ans, vous avez reçu 620 000 euros de Papa Massata Diack ou de ses sociétés sur vos comptes en France, à Monaco ou au Sénégal. À quoi correspondent ces sommes, demande-t-il. Silence. Je ne vous demande pas forcément le détail des virements, mais leur motif, relance le magistrat. Je ne me rappelle pas à quoi ça correspond, se défend l'octogénaire. Mais c'est une somme énorme, on se souvient au moins du montant, s'exclame le procureur. Ou pour vous, ce n'est pas grand-chose ? Lamine Diack le toise, mais reste muet.
On passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 22 degrés, Adélaïde 17, Melbourne 18, Hobart 15, Canberra 14, Sydney 21, Brisbane 24, Cairns 28, Darwin 34 et à Alice Springs, maximal de 19 degrés. Un rappel des grands titres de ce 16 juin. Un troisième ministre du gouvernement du Victoria a présenté sa démission. Une école primaire dans le nord de Melbourne a fermé ses portes pour un nettoyage après qu'un étudiant ait été testé positif au coronavirus. Une décision historique aux États-Unis pour protéger les personnels LGBTI de la discrimination sur le lieu de travail. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.